M Radio, Génération 90-2000, avec Jérôme Zano.
Nadia est avec moi dans ce nouveau Génération 90-2000, je suis très content de t'avoir. Salut Nadia.
Salut, ça va bien?
Mais ça va super bien, tu as marqué clairement les années 2000 et on va avoir l'occasion tout le long de ce podcast d'en discuter. On va revenir sur les succès aussi parce qu'il y en a. Avant ça, 20 ans après,
ouais.
Quel regard tu portes sur ces années 2000?
Évidemment, j'emporte quelque chose de positif, d'énergétique, d'énergique, d'un moment où il y avait des sons très éclectiques. Il y avait beaucoup d'artistes qui amenaient une vague et une mouvance différentes, même si on était
catalogué. Et mis dans des cases surtout en fait.
Ouais, mais ça je crois que ça a toujours été. Et puis la musique, c'est il y a quelque chose de cyclique dans la vie de manière de très immuable, telle que les saisons. Et dans la musique, on a la musique fait partie des cycles. Et c'est vrai que il y a eu cette mouvance dans les années 2000, R&B. R&B, hip-hop, urbain, on ne disait pas encore vraiment urbain, tu sais bien, à l'époque.
Ouais, ouais.
Moi, je considérais que je faisais déjà un peu de la musique urbaine, pop urbaine, parce que j'ai toujours été plus dans quelque chose d'assez ouvert dans ma musique, même si les beats sont très hip-hop, hein, parce que franchement, on les a puisés, on s'est immergé complètement dans ce son-là. Après, c'est vrai que les mélodies sont très chansons, très pop. C'est ce qui fait le côté hybride de du son Nadia, et ce qui a fait aussi, je crois, cette singularité et qui est arrivée comme ça, où j'étais un peu la seule à faire ça,
ouais.
Parce que c'est ce qui, c'est ce que je ressentais moi de l'intérieur, de pouvoir donner, parce que j'ai quand même une énergie. Très terrienne comme ça,
ouais.
et puis j'aime ce côté harmonique qui est inscrit dans ma musique, qui est très symphonique. Après c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on a toujours voulu nous rentrer les artistes dans des cases, alors que
et dans un style aussi, parce que tu vois, le côté pop aujourd'hui on l'assume plus facilement,
ouais.
Même dans la scène urbaine aujourd'hui.
Carrément,
prends Ayana Kamura aujourd'hui qui est dans la scène urbaine, mais ça sonne pop et on l'assume.
Ouais,
il y a 20
parce
ans, on
n'assumait
pas le côté pop.
Non,
je sais pas pourquoi.
Et alors moi j'étais complète, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'assumais complètement ça et j'étais un peu, je dirais entre guillemets, d'ailleurs quand on me disait ouais. Tu sais, R&B, non, c'est pas R&B.
Bah ouais.
Moi, je le disais carrément. Mmh. Moi, je chante droit en général. Dans le R&B, c'est vrai que les vibes sont très. C'est ce qui dénote, qui amène justement ce truc-là. Moi j'ai des chansons qui. Avec des mélodies très droites et des. Comment dire. Et des sonorités. Ouais, urbaine. Donc, si tu veux, ça, je suis arrivée en créant un style, si tu veux, en m'inspirant toujours de. On s'inspire toujours de l'ancien pour essayer de balancer des petites perles comme ça, rafraîchissantes, qui créent du coup le style de l'artiste. Aujourd'hui, même dans le rap, tu l'as dans le slam. À un moment, c'est arrivé, mais ces gens-là se sont inspirés forcément. De quelque chose qui s'est passé 20 ans avant et 20 ans avant. Et donc, il y a quand même cette histoire de cycle dans la musique. Blinding Light avec The Weeknd.
Enfin, ouais.
Là, il fait carrément hommage à Take On Me, le groupe AA des années 80. Et moi, je trouve que la musique, en ce sens, elle est riche et elle permet à l'artiste de pouvoir se renouveler et pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est vrai que moi je me souviens même des victoires de la musique à l'époque.
Ouais.
Bah on m'a mis dans une catégorie
rap,
qui est
R&B. Et
voilà.
En plus ça faisait vraiment, enfin ça fait vraiment sac. Puis on met.
Ouais.
Bah on va
c'est
mettre
ça.
Parce que c'est élitiste quand même les victoires de la musique. Enfin c'est mon avis personnel.
Oui.
Je trouve que cette cérémonie est élitiste. Elle se décoince depuis quelques années. On donne vraiment aussi vision sur des scènes musicales qu'on voyait peu au final. Mais je trouve quand même que c'est élitiste. Mais bon, on est content d'avoir une cérémonie comme ça en France. 2005, tu le dis, tu gagnes cette victoire de la musique pour l'album 16/9. 5 millions de disques vendus. Tu fais partie de ces artistes qui ont traversé la génération. Nous, sur M Radio, tes titres sont diffusés dans notre playlist. Comment t'expliques que... Est-ce que c'est peut-être ce côté pop qu'on parlait au début? Comment t'expliques que ça a traversé les générations? Et je peux t'assurer que les plus jeunes connaissent aussi tes chansons. Tu dois sûrement t'en rendre compte. Mère et fille, on peut chanter tes chansons en fait aujourd'hui.
Ouais, mais c'est parce que je pense que je n'ai pas cherché à épouser ce qui se faisait dans le moment.
Un effet de mode.
C'est-à-dire que il y a toujours ce côté hybride, cette hybridation qui fait vraiment partie intégrante de foncière de mon identité perso et qui s'entend dans ma musique. C'est-à-dire que il y a vraiment besoin. Moi, je me souviens quand on enregistrait 16/9, on était à la campagne, on voyait les vaches à travers les studios et on enregistrait en pleine campagne.
On prenait
et surtout, on n'écoutait pas ce qui se passait à la radio parce qu'on avait notre vision de ce qu'on voulait envoyer, c'est-à-dire avoir des sons percutants dans l'air du temps, parce qu'une musique qui n'est pas dans l'air du temps, on est à côté, on passe à côté de quelque chose. Donc en termes de beat et en termes de, à l'époque c'était 50 Cent, c'était Dre, en termes de mes références à moi, de son. Et puis dans les codes, j'ai aimé Goldman, j'ai aimé Berger, et ça s'entend dans Parle-moi, on entend la chanson piano-voix, on entend la musicalité, la musique française pour le coup. Et c'est cette hybridation, je pense, qui a fait que c'est des chansons qui ont marqué les gens de génération en génération. Et puis, par contre, on y a amené l'énergie. Parce que ça, c'est mon ADN. Et ça, on l'entend d'ailleurs dans le nouveau single. C'est-à-dire que je reprends ces codes disco-funk qui ont été marquants dans une époque. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est d'amener pour ces générations qui arrivent là, qui n'ont pas forcément connu la funk, avec des beats hyper actuels de la pop, faire ce mélange-là, hybride, pour que la jeune fille de 15-20 ans, quand elle va écouter ce son-là, va se dire « Ah tiens, il y a quelque chose qui me donne envie de... Bon, » Moi, il n'y a rien à faire. Je fais de la musique pour faire bouger les gens, parce que j'ai ça dans mon... Je pense pas qu'un artiste, il se réinvente.
Ouais.
Il est ce qu'il est. Et moi, je sais que j'ai cette capacité à mobiliser, à communier les gens. Moi, je crois que c'est un peu ma mission, quoi.
Tout en prenant le temps de le faire aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aller très très vite dans la musique. Et 16/9, tu le disais, je crois que tu as mis quasiment un an pour préparer
9 mois.
L'album.
9 mois.
Le titre DJ, on va avoir l'occasion d'en reparler. Tu as pris ton temps aussi.
Ouais, 9 mois.
Voilà.
Ouais, parce que des chansons, j'en sors pas tous les ans, ni les 2 ans, ni tous les 3 ans. Et là, j'avais vraiment envie de rendre hommage vraiment à ce qui m'a justement dans les années 2000 permis de mettre en lumière ma musique, c'est communier, la communion avec les gens, l'énergie qu'on a en tant qu'artiste à donner de l'énergie, et ça se voit quand on est sur scène, et ça, j'avais envie de recommunier avec ça, et donc j'ai laissé bien en maturer le projet, c'est-à-dire respecter, aller voir même l'histoire de la musique des années 70, c'est ramener une pop culture. Voilà. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans faire de la musique. Moi, j'ai 52 bientôt dans une semaine, de me dire que la jeune fille de 15 ans, l'adolescente, va s'y reconnaître et elle va aller chercher une musicalité et s'intéresser à la limite à des cuivres, à des groupes comme George Benson, des vraies références de musique, parce qu'à cette époque-là, c'était très très riche. Il y avait vraiment et puis c'était une musique aussi, il faut dire, qui était faite pour les minorités.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment Et elle
pour
est...
et par les minorités.
Exactement,
aussi.
Exactement. Et ça, c'était hyper important et ça m'a motivée à respecter les codes de cette musicalité. Et ce qui était aussi important, c'est d'amener toujours mon ce côté beat qu'il y a dans ma musique, qu'on puisse pouvoir intégrer ces cuivres avec ces sonorités actuelles.
Ouais.
Et quand on a trouvé le bon équilibre, je dirais, c'était en janvier, on était assez contents, on dit ouais, là c'est bon, on est bien.
Et donc voilà. Et ça s'est senti parce que ça a fonctionné. On a plein des tubes qu'on vous diffuse toute la journée sur M Radio. On a aussi cette séquence qui s'appelle le classique 90-2000 tous les jours dans le 16-20 et où en fait on explique la naissance d'une chanson et ouais. On se fait plaisir à l'écouter derrière. Est-ce que tu peux me parler du morceau Et c'est parti. Comment il est arrivé ce morceau?
Alors Et c'est parti, il est arrivé. C'était juste après Parle-moi.
Qui a été un raz-de-marée passage aussi. Hein.
Ouais. Alors, et c'est parti, c'est complètement foncièrement qui je suis. C'est-à-dire, je viens de l'école du sport. C'est que j'ai fait du sport.
Oui.
J'ai eu la chance de faire du sport de haut niveau et de faire des compétitions très importantes. Et je m'étais toujours dit que quand je vivrais ce rêve, je rendrais hommage à cette école de la vie qui est le sport. Et donc, j'en avais parlé à l'équipe et on s'était dit ouais, mais comment on peut mettre en image, parce que on part toujours de on se visualise dans quelque chose de dans une imagerie. Donc là en l'occurrence on s'était mis comme référence des images des films, des séries, et là on était parti sur Rocky. On s'est dit ah ouais, Rocky ça marche, c'est clairement ça. C'est-à-dire on part au départ, on est challenger, on n'est peut-être pas fait pour ça. Et en travaillant, en s'exerçant, en s'entraînant, eh ben on finit par y arriver. Et donc c'est un hymne qui me correspondait bien. Et donc on a tout de suite pensé à des Rocky. C'est juste une chanson héroïque, symphonique quand on regarde les codes de cette chanson. Et puis on est arrivé sur une mélodie où c'était Everybody, tu vois, c'était même pas et c'est parti, et puis elle est arrivée comme ça, mais je l'ai incarnée tout de suite parce que c'était vraiment là pour le coup ce qui me ressemblait à 200%, quoi.
Ouais. Et alors
et cette chanson, alors c'est vrai que on a mis du temps à l'enregistrer parce que on n'arrivait pas à caler des sons français sur ce qu'on avait fait en yaourt. Et nous, c'est important. On fait de la musique qui sonne. Alors, ce qui veut pas dire qu'on n'y met pas le sens, c'est pour ça qu'on met énormément de temps. Et donc, on s'est intéressé à étudier même les textes de Berger, de Goldman. On s'aperçoit que ce sont des textes très, très simples, mais avec une métrique et qui amène carrément les notes. C'est-à-dire que une fois qu'on a la mélodie, on connaît la mélodie, on connaît le texte derrière. Et ça, on a essayé de se caler là-dessus et on a mis 3 mois, je crois, pour trouver « et c'est parti ». Parce que l'expression, au départ, c'est « c'est parti ». Et d'ailleurs, on nous critiquait, on dit « mais non, on ne dit pas « et c'est parti ». Il nous manquait un pied. Et à un moment, on s'est dit « mais non, et c'est parti ». Et on est hyper heureux aujourd'hui parce que moi, j'entends dans les émissions de sport on ne dit pas c'est parti, on dit et c'est parti. Et donc voilà, c'est. Et puis c'est une chanson qui a été en 2006, la radio, la chanson francophone la plus écoutée dans le monde. Et ça, moi je viens du sport et j'en fais encore beaucoup aujourd'hui et je me trouve à ma place, moi, quand Mais c'est vrai qu'on en a chié avec cette chanson, en fait.
C'est un des titres qui a marqué de ta discographie. Tu bossais avec Smarty aussi, qui est légendaire aussi dans cette chanson et dans le clip, etc. 20 ans après, un peu moins de 20 ans après, t'y retournais avec ce titre qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle DJ. Alors, comment on a bossé sur ce morceau-là?
Ça s'est fait naturellement, en fait. Honnêtement, on s'est pas dit, tiens, on va faire un titre comme ça, je vais poser là, Smarty va faire ça. Non, pas du tout. En fait, au départ, on n'avait même pas prévu de partie rap.
Okay.
Et puis, je te dis, quand on avançait à tâtons, on se dit, ah ouais, mais il manque, puisque de toutes les façons, l'énergie people a meuté les gens. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, Ah non, mais Smardy, faut qu'il revienne parce que voilà. Et bon, évidemment, lui, il a sauté en l'air parce qu'il adore le titre. Et franchement, c'était one shot. C'était une vraie. Ce jour-là, on était. C'était électrique dans le studio parce que franchement, il a. C'était comme s'il a, il a d'une traite comme ça. On s'est dit, c'est ok, c'est la prise, la bonne. En fait, tout a été facile sur ce titre-là. Dans le sens de pas cérébraliser le truc, quoi.
Tu as travaillé de la même manière, d'abord la musique, après les paroles.
Ouais, toujours au service de la musique, en fait. Moi, tant qu'on n'a pas les notes, tant qu'on n'a pas la mélodie, on peut pas épouser une note avec un mot. Par contre, quand on est sûr de la mélodie, on pose les mots, et là tout de suite on sent si ça s'imbrique ou pas, et on teste, et en général on sait quand c'est fluide et que c'est simple.
Ouais.
Et c'est en ce sens que c'est long, c'est laborieux à faire, parce que le texte arrive une fois qu'on a l'énergie globale de la musique. Donc déjà ça nous amène une idée de comment on va, mais en général de comment on va arriver à, si tu veux, à trouver un thème de chanson. Mais en général, on a toujours le mot, le gimmick qui va, rock par exemple, on avait rock, on n'avait pas forcément toute la mélodie, mais on savait qu'il y avait rock dans la chanson.
Là, t'avais DJ.
Là, on avait DJ. Là, on savait que c'était DJ.
Et ça sonne bien, hein. Ouais. Franchement.
Non, je suis contente.
C'est là où on en discutait aussi avec tous ceux qui travaillent à la programmation ici chez M Radio, c'est que je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas du tout, mais je trouve qu'il y a une intelligence dans ce morceau où on sait qu'on est en 2025, mais on sait que c'est Nadia.
Ah, c'est cool. Ça, ça fait plaisir.
Donc franchement, ça fonctionne bien. Ouais. Comme je le disais, moi, je trouve que en termes de Madeleine de Proust, Smarty qui revient avec toi,
yes.
Ça a été une rencontre au final aussi pour toi qui a marqué les titres.
Complètement.
Dans le classique 90-2000, il y a une autre rencontre et un autre titre qu'on défend, c'est avec Enrique Iglesias.
Yes.
Laisse le destin emporter. Ça aussi, ça a dû être fou quand même.
Ah ouais, alors ça, c'est pareil. C'était quelque chose de pas. Et c'est-à-dire qu'il y avait au départ une demande de d'Enrique, et moi à l'époque j'étais sur ma tournée, donc je pouvais pas. C'est encore toujours cette manière que j'ai de quand j'accepte un projet, d'être à fond et entièrement. Et là on préparait la tournée live et je pouvais pas. Je lui avais dit écoute, on se reparlera plus tard. Et un an après, il m'a recontacté. Et il était à Paris et on s'est parlé. Et lui, il avait une idée beaucoup plus fermée, plus R&B,
okay.
qu'il avait sur son répertoire. Et moi, je lui ai dit non, non. Par contre, il y a ce titre-là qui est pop. Il me dit ouais, mais ce titre-là, on l'a sorti aux States et il n'a pas fonctionné. Je dis ouais, mais c'est pas grave. Moi, ce que je te dis, c'est que je pense qu'il faut accélérer le beat, par contre. Je pense qu'il faut que je refasse le texte en français, parce qu'il était quand même assez dark. Et je pense qu'il faut qu'on raconte une histoire, quoi, parce qu'on ne peut pas tricher. Et donc, il faut qu'on fasse un clip. Parce qu'ils avaient déjà tourné un clip.
Oui,
et
toi, oui.
Je lui ai dit non, non. Et je sais qu'à l'époque, il me dit, ah, je ne sais pas. Ah, ben, je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas tricher. Et il m'a dit, mais t'as raison.
Donc, heureusement qu'il t'a écouté quand on voit le succès du titre.
Ah, mais et franchement, d'ailleurs, il. La veille de la sortie du single, il m'a dit t'avais raison. Oh, il m'a dit mais comment. Il m'a dit on avait fait des paris et tout ça, et je lui ai dit bon, tu verras, on va rentrer fort.
Et pas tomber dans une facilité, parce que
c'est exactement ça.
Il y a fut une époque, ça peut encore se faire maintenant, mais beaucoup moins. C'est vrai qu'il y avait cette manie, mais aussi ces règles imposées par le CSA des artistes à l'étranger qui avaient besoin de rentrer dans ce que nous on appelait les quotas français. Alors nous, chez nous, on n'en a pas besoin parce qu'on diffuse que de la chanson française, donc voilà. Mais certaines radios sont obligées à un certain moment de diffuser tant de pourcentage de chansons françaises. Et c'est vrai qu'il y a eu cette époque où on prenait le chanteur français pour se caler là, faire un refrain, ça passait dans les quotas, tout le monde était content.
Ouais.
Finalement, heureusement qu'on n'a pas fait ça avec ce titre.
Ah ouais, vraiment. Mais c'est. Ouais, c'est. Alors après, franchement, on n'a quasi même pas fait de promo. C'est pour ça que je te dis, c'est la magie de la musique, elle est exceptionnelle. On a fait ce clip qui a tourné. Et après, on a fait une émission de télé et c'est tout, quoi. Et il est resté 13 semaines numéro 1. Et puis moi, ce qui m'a amusé aussi, c'est que quand on a posé ensemble, moi, je me dis, oh bah attends, je vais le suivre, quoi. J'ai vraiment chanté à la Enrique Iglesias, du coup, et c'était. Et franchement, ça a été une belle expérience.
De toute manière, quand une chanson doit fonctionner,
ouais,
promo ou pas promo,
yes,
je prends toujours l'exemple de la chanson J'envoie valser de Zazie,
ouais,
qui était sur son album. Elle a jamais parlé de ce titre-là. Elle a jamais sorti de single. Elle a jamais fait de clip, jamais de promo. C'est une des chansons que tout le monde connaît de Zazie et qui passe partout en radio.
Ben voilà.
Quand il y a une chanson qui doit marcher, ça doit fonctionner.
Elle a son histoire, ouais. Et puis il y a des chansons qui ne meurent jamais.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est soit vous rencontrez des gens. Ils vous voient, ils font hey, c'est parti. Ou Come and Rock. Ou Parle-moi, c'est encore différent parce que je suis complètement happée par des gens, mais par leur histoire de vie. Moi, ça m'émeut énormément quand des femmes m'appellent et qui me disent voilà, j'ai subi telle maltraitance, ouais, ou j'ai été violée. Ou j'ai... Alors, ils en font leur propre histoire en fait.
Le clip était dingue, hein, d'ailleurs, ouais, sur ce titre aussi. Hein,
ouais. Ami Ennemi, j'étais très choquée aussi. Oh, Ami Ennemi, c'est
la vie.
Ouais, mais...
En vrai, c'est la vie.
Ouais.
Ami Ennemi.
Ouais, ouais, l'héritage, la manière de d'être... Oui, c'est ça, tu l'as dit, c'est la vie.
C'est la vie. Mmh. On la rappelle aujourd'hui, ce titre DJ, hein, qui est sorti partout. On vient de faire un petit peu la rétrospective de ces 20 dernières années. Pour terminer, comment on s'imagine dans 20 ans?
Moi, comment je... Je m'imagine pas du tout. Je vis au jour le jour. En général, j'aime bien cette idée de rester présente le plus, voilà. Et non, je me...
Est-ce qu'il y a 20 ans, alors tu aurais pu imaginer que 20 ans après, tu serais assise avec moi, mais bien d'autres aussi, en train de parler de ta musique qui a marqué une génération et qui en a traversé quasiment deux autres?
Non, bah non, parce que quand on fait les chansons, on se dit pas je veux faire des succès, je veux faire ci. Non, on vit le truc. Et d'ailleurs, souvent, la question qu'on me pose, on me dit est-ce que t'en as profité? Bah non, en fait. Mais tous les artistes, je pense que c'est un peu ça, parce que dès lors où on est là, on a envie de donner, donne, on cherche pas à savoir si truc. Peut-être que les nouvelles générations, c'est encore différent, mais nous, on était à fond. En fait, quand on était sur scène, par exemple, pour tel plateau radio, ou pour tel promo, ou pour telle scène, eh ben, on se disait, bon, ok, demain, il y a ça. Donc, comment je vais faire le truc pour être bien, quoi, pour tout donner? Et en fait, à chaque fois, c'est ça, quoi. Et on vit pas forcément, peut-être, le... Moi, on me posait la question sur les victoires de la musique. Je m'en souviens pas comme quelque chose de... Waouh.
Ça a pas été le... Je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, parce que quand tu travailles et que t'es à fond et tu donnes à fond, t'es contente parce que, voilà, c'est... Mais tu passes next tout de suite à autre chose, quoi.
Parce qu'il y avait ce flux aussi qui était hyper tendu.
Ouais.
Et à la différence où maintenant les artistes peuvent se permettre de faire un peu moins de promo parce qu'il y a les réseaux sociaux. Chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Tu sais, il y a eu le retour de la Star Academy. On a pu beaucoup lire, oui, mais on n'a plus les grands artistes de l'époque. Oui, mais aujourd'hui, Beyoncé, elle a plus besoin de la Star Academy pour faire sa promo.
Ouais, c'est ça.
Beyoncé, elle a les réseaux sociaux, pour donner un exemple. Donc c'est vrai que c'était des rythmes qui étaient encore beaucoup plus soutenus. Moi, je suis quand même content qu'il y ait encore un peu de promo parce que ça m'a permis de t'avoir ici dans ce podcast.
Super, moi, pareil.
90 2000, merci à toi.
Merci.
Nadia, on le rappelle, le titre s'appelle DJ, il est sorti aujourd'hui. Franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, allez-y. C'est vraiment la Madeleine de Proust, Nadia, avec 2025. Ça
merci
sonne super
à toi.
Bien. Merci beaucoup.
Merci à M Radio. Hein. Merci
et
beaucoup.
Et évidemment, on continue et on se retrouvera pour un prochain numéro du Génération 90 2000.
Tu peux, c'est le lieu, monte l'énergie, oh my. gonna keep it grooving and moving.